Et on ajoute à ce beau trio notre chroniqueuse politique, Jacinthe Eve Harel. Comment ça va?
Ça va vraiment bien.
Hey, tu entres en studio, tu nous annonces que tu viens de cocher quelque chose sur ta bucket list. Ouais. Tu nous écoutais dans la voiture en t'en venant. T'arrives du Texas avec tes enfants, puis c'était réellement quelque chose, un voyage à faire bucket list style?
Exactement. Sur notre bucket list familiale, on voulait aller voir le Texas, visiter le Texas, puis aller vivre l'expérience très républicaine des États-Unis, propre à cet État. Et puis, ça a été une magnifique semaine où on a découvert, avec une perspective quand même politique, j'ai trois enfants à l'adolescence, et qui sont très politisés, alors on regardait toujours les choses avec
les
un œil politique.
Les âges, tu sais, âge parfait pour, pour ce voyage-là, 12, 15 puis 18, je pense.
Exactement.
Ouais. C'est. Ça a-tu été à la hauteur de tes attentes, le Texas? C'est pas mal tout ce qu'on dit est vrai, puis plus.
Oui. C'est un très gros. C'est un très gros état et on a loué une voiture. On a profité de l'occasion de la semaine pour visiter les quatre plus grandes villes du Texas. Donc, Dallas, Houston, San Antonio puis Austin. Donc, ce beau triangle-là, géographique, ça se fait quand même bien avec la location d'une voiture. Ça nous permet de voir toutes les dimensions du Texas un peu plus du sud puis du Texas un peu plus du nord. Mais oui, c'est fidèle à ce qu'on peut s'imaginer. On a mangé des briskets. On a parlé... aux Américains, on a parlé politique et bien sûr, on est aussi allé expérimenter différentes activités typiques du Texas.
Y a-t-il quelque chose que tu peux partager avec nous? Un truc qui a fait vraiment comme qui t'a presque, tu sais, peut-être jeté sur le cul ou émerveillé que réellement ça se fait au Texas?
Oui, bien, on est allé dans un centre de tir. Ma grande fille de 18 ans, elle dit, on peut pas aller au Texas sans aller tirer du gun.
Ah, c'est correct.
Donc, on est allé dans un centre de tir et on a, après un cours sur le maniement sécuritaire des armes à feu, on est allé expérimenter ça et on a revenait pas que ce soit aussi accessible que ça et aussi
c'est
cliché
l'âge, c'est
que
quoi
ça.
L'âge limite? C'est quoi l'âge limite dans un centre de tir?
À partir de 8 ans, un enfant, s'il est accompagné d'un adulte, peut, dans un centre de tir, pratiquer le tir sur cible. Alors, c'est quand même spectaculaire comme expérience et de voir ça, cette liberté-là... Excessive de notre point de vue, ça c'est clair.
Exactement. Pendant que tu étais au Texas, c'est le congrès des démocrates, justement, à Chicago. Oui. Tu as eu le temps de suivre ça un peu?
Oui, tout à fait. De toute façon, dans notre retour en avion, on a fait une escale à Chicago et on est resté là quelques heures, justement. Je suis pas, malheureusement, comme Yves-François Blanchet, je me suis pas fait inviter au Congrès des démocrates. Donc, je suis pas entré dans la salle, mais juste l'effervescence dans la ville de la venue du Congrès démocrate. C'était très palpable. Là. Chicago était en pleine ébullition politique. Alors, c'était... sans avoir vu ce qui se passe dans la salle. De toute façon, on voit mieux puis on entend mieux quand on suit ça à partir de notre bon poste de télé. On a les meilleures images possibles. Oui, j'ai suivi ça à la télé. C'est fascinant à quel point le Parti démocrate est en pleine... C'est ça, j'ai parlé d'effervescence puis d'ébullition, mais ce renouveau avec le départ de Joe Biden puis l'arrivée de Kamala Harris a vraiment donné du vent dans les voiles. À ce parti-là, puis aussi a redonné beaucoup d'optimisme aux bénévoles, aux membres du parti. Finalement, tous ceux qui étaient là présents se disaient électrisés là, par cette ambiance-là, parce que, bien, c'est sûr, il y a du nouveau sous le soleil, puis un peu plus d'espoir avec une candidate de 59 ans qui incarne finalement l'espoir. C'est le mot qu'on voyait partout.
Mm-hmm. L'élection est loin d'être gagnée pour les démocrates, mais somme toute, quand on regarde ce qui se passe, le remplacement de Joe Biden, c'est une bonne décision.
Oui, tout à fait. Bien, ça a redonné du vent dans les voiles à ce parti. Puis c'est sûr que tous les bénévoles qui étaient là, tous les membres du parti qui étaient là, puis les représentants du parti se sentent qu'ils peuvent surfer sur cette vague-là. Puis ont été appuyés par l'establishment aussi du Parti démocrate, franchement.
Gros coup d'amener les Obama.
Ben oui, quand on voit Michelle Obama et Barack Obama mercredi qui sont allés faire des discours très forts, très soutenus pour aller soutenir la candidature de Kamala Harris. Hier, on avait aussi Bill Clinton qui était là, Oprah Winfrey qui était était là. Donc, on sent qu'ils ont sorti les gros canons, les gros noms. C'est pas gagné quand même, mais ça démontre à quel point, finalement, ce parti-là avait besoin de renaître un peu ou d'un petit coup de fouet là, pour raviver les troupes, puis ça a fonctionné. Maintenant, est-ce que ça va se traduire par une élection gagnée? C'est loin d'être garanti, mais ça leur permet là, d'au moins mener une campagne avec un peu plus de vigueur.
Hey, Jacinthe, c'est quoi la vibe politique dans un État comme le Texas? Ils ont-tu, là, les Texans ont-tu la politique tatouée sur le cœur? C'est quoi la vibe en ce moment là, au Texas, comme avec le commun des mortels, les citoyens du Texas?
Bien, c'est sûr que c'est un État qui est profondément républicain.
Absolument,
avec le même gouverneur depuis 22 ans qui est en place. Alors, on voit beaucoup, beaucoup de pancartes, beaucoup, beaucoup d'appui pour le Parti républicain, pour Donald Trump. Donc, beaucoup de casquettes, beaucoup de chandails, beaucoup
des drapeaux,
de pancartes.
Des drapeaux d'éco, puis tout ça, des petites pancartes
sur
le gazon.
Ouais, oui, définitivement. Ouais. On sent que les gens sont très politisés, ils ont un parti pris très fort et il y a un soutien vraiment très fort. Donc, on parle beaucoup de politique. Les gens se gênent pas pour...
De façon ouverte, là,
Oui, okay. De façon ouverte pour s'afficher, afficher leurs croyances, afficher leur soutien. Et puis, j'ai été un peu plus tôt cet été. Moi, je me suis promenée beaucoup aux États-Unis cet été. Je me disais, c'est les présidentielles à l'automne.
Ben
alors,
oui.
Je voulais sentir le pouls. Donc, dans un autre voyage précédent au début de l'été, j'ai traversé les États-Unis du nord jusqu'au sud. Donc, je suis descendue jusqu'en Floride. En Floride aussi, c'est la même chose. Des pancartes de Trump.
Ça se compare au Texas?
Des Trump gonflables géants installés devant des maison.
Aïe,
là.
Aïe.
J'ai pris des photos, je vais les publier. Là. J'attendais mon retour de vacances pour commencer à publier ça, mais tout ce que j'ai vu de soutien politique, c'est sûr qu'on voit plus de soutien dans les États républicains pour le Parti républicain. C'est comme si les militants pour le Parti démocrate sont plus effacés ou sont moins extravagants dans leurs démonstrations.
Ouais.
Mais quand on parle politique, ben là, c'est sûr qu'il y a des discussions super intéressantes parce que les Américains adorent parler politique, sont très politisés, sont très défenseurs de leur point de vue. Alors, ça donne toujours des discussions super intéressantes.
Si les partisans démocrates sont plus invisibles, donc plus caché. N'empêche que présentement, les démocrates ont pris complètement le momentum médiatique avec l'arrivée de Kamala Harris, avec leur congrès. Qu'est-ce que Donald Trump doit faire pour tenter de revenir à la surface médiatique sans faire une grosse gaffe, là, on s'entend, là,
revenir
positivement dans les médias? Comment t'organiserais cette stratégie-là si t'étais une stratège pour Donald Trump?
Bien, on voit que les démocrates portent beaucoup le discours, puis on l'a vu dans le discours de Barack Obama, de Michelle Obama, dans le discours aussi de Bill Clinton, mais et même Kamala Harris, ils tentent d'incarner un discours beaucoup axé sur les valeurs, hein, les valeurs des Américains, les valeurs d'entraide, les valeurs
de démocratie.
Alors, Donald Trump se porte un peu plus axé sur un discours économique, donc ce qui touche la vie quotidienne des gens, leur portefeuille, leur gagne-pain, tout ça. Donc, de continuer à travailler sur ce point-là, je pense que c'est gagnant parce que, à mon avis, les démocrates ne parlent pas assez d'économie. Mm-hmm. Sont très humains sur le cœur, sur ce qui nous porte comme valeur. C'est rassembleur comme discours, mais il reste qu'au bout du compte, on vote en politique pour avoir des résultats sur notre quotidien. Puis notre quotidien est affecté par le portefeuille. Donc, de continuer à marteler un discours très économique, je pense que ça va être gagnant. Puis, on va surveiller vraiment ce qui va se passer vendredi, demain, parce qu'en Arizona, Donald Trump a prévu une allocution et... étrangement, Robert Kennedy Jr., candidat indépendant, dont on parle peu, mais qui est quand même un candidat au présidentiel américain, va se trouver en Arizona demain aussi, comme par hasard. Et il y a des médias américains qui ont commencé à soulever l'hypothèse que peut-être que demain, on annoncerait un soutien, un désistement de la candidature. Donc, Robert Kennedy Jr., peut-être va se désister comme candidat au présidentiel et peut-être soutenir Donald Trump. Si c'est le cas, ça sera là un moment fort pour le Parti républicain parce qu'à ce moment-là, on est quand même à 7-8% d'appui pour Robert Kennedy Jr. Ça peut être le soutien qui manque à Donald Trump pour remporter certains États clés aux États-Unis. Donc, c'est à surveiller et ça pourrait faire en sorte que finalement, ce sera peut-être le Parti républicain qui aura le vent dans les voiles dans les prochains jours si on assiste à cette annonce-là.
Jacinthe, plus près de chez nous, Denis Coderre est dans la ligne de mire de Revenu Québec. On lui réclame un 66 000 $ en impôts non payés. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact sur la course à la chefferie du Parti libéral du Québec?
Certainement, certainement. Puis qu'on... Éloignons-nous de cette polémique-là de « il doit de l'argent à l'impôt, ouais. y a-tu bien fait, y a-tu pas bien fait? » Mais il reste que ces questions-là de payer ses taxes, payer ses impôts, ça colle à un politicien, ouais. ça colle comme une gomme, une grosse chiquée de gomme en dessous du soulier, donc on ne peut pas se débarrasser. Alors, ça va lui faire mal. C'est une mauvaise nouvelle pour lui, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle sur notre système politique. Bon, c'est pas exclusif au Québec, mais ça sent le coulage.
Ouais.
Ça sent l'establishment qui veut se débarrasser d'un candidat nuisible. Ça sent le coulage d'informations.
Ouais,
c'est pas par hasard qu'un journaliste est allé voir la liste des propriétés qui ont été mises sous cible par le Revenu Québec. Ça sent l'information qui a été écoulée pour finalement se débarrasser d'un candidat qui nuit. Puis ça va fonctionner parce qu'on le sait, on en a entendu des histoires. Les Québécois n'aiment pas ça, savoir qu'ils vont voter possiblement pour quelqu'un qui a eu des difficultés au niveau de la gestion de son portefeuille ou la gestion de ses factures, la gestion de ses comptes. Ça paraît pas bien, donc c'est bien malheureux, mais c'est pas un hasard si ça sort comme ça.
Tu parles de l'établishment, puis là, tu fais référence à l'établishment du Parti libéral, ouais. évidemment, parce que, bon, Denis Coderre, c'est une candidature qui n'est pas nécessairement accueillie à bras ouverts. Est-ce que, compte tenu de ça, qu'il n'a pas payé ses impôts, on pourrait le rayer du côté du Parti libéral du Québec de la course, ou on se dit... Anyway, il va perdre ses appuis puis il va se retirer lui-même avec cette nouvelle-là.
Je ne sais pas s'il va se retirer lui-même. Je ne pense pas non plus que le Parti libéral va le tasser pour ça, parce que c'est une situation qui est un litige avec Revenu Québec ouais. en ce moment. Il y a une question de séparation aussi de Denis Coderre qui dit que la maison sur laquelle il y a une hypothèque légale d'enregistrer par Revenu Québec, c'est son ex-conjointe qui l'habite. Il y a une question de séparation qui n'a pas été terminée d'être réglée. Donc, parfois, c'est bien compliqué, tous ces enjeux-là qui dure quelques années au niveau de la séparation des biens puis les comptes et tout ça entre les ex-conjoints. Donc, les procédures vont suivre son cours et je pense pas que ça va faire en sorte qu'il va se retirer ou que le parti va le tasser. Ça va juste faire assez mal pour le nuire comme il faut et pour lui coller à la peau. C'est tout ce qui était voulu mm-hmm. par cette sortie-là. On sait que les informations, de toute façon, on se fait toujours lancer des informations à gauche, à droite, quand on est dans les médias. Et finalement, ça va servir les intérêts des autres candidats.
Certainement pas une tâche que Denis Coderre veut. Là. Il voulait pas que ça sorte, ça change. Au Québec, t'sais, on haït nous-mêmes payer des impôts. On n'aime pas ça quand, en plus... un politicien ou futur politicien paye pas ses impôts non plus.
Ben, c'est parce qu'on se dit toujours, hey, si moi je les paye, pourquoi lui il paye pas?
Ouais.
Puis lui, il aspire à gérer le Québec.
Exactement.
Peux-tu faire le premier geste de payer ses impôts et ses taxes? Déjà qu'on en a pas mal.
Oui.
En terminant, juste un petit résumé. François Legault a annoncé l'arrêt des travailleurs temporaires à Montréal au niveau de l'immigration. Ouais. Bonne, mauvaise solution?
C'est une solution politique. Donc, on sait que François Legault est en négociation depuis longtemps avec le fédéral sur les questions d'immigration, sur les questions de seuil d'immigration. Il demande à Justin Trudeau de faire quelque chose pour limiter le nombre d'immigrants. Justin Trudeau, lors de leur dernière rencontre, avait dit « Bien, commencez par voir ce que vous pouvez faire au niveau de vos travailleurs étrangers temporaires ou au niveau de votre immigration temporaire. Faites, parce que vous avez le pouvoir, Québec, de limiter votre arrivée de travailleurs étrangers temporaires ou d'étudiants, d'immigrants temporaires. Donc, c'est une solution politique parce que, en fin de compte, ça ne concerne pas tous les immigrants temporaires. Donc, on a exclu certains secteurs comme l'agriculture, la transformation alimentaire. Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas touchés par ça. C'est exclusif à l'île de Montréal. Donc, c'est pour l'immigration temporaire sur l'île de Montréal, dans certains secteurs de l'industrie. Et ça concerne les demandes qui vont arriver après le 3 septembre pour une période de 6 mois. Donc, en annonçant ça d'avance, bien déjà, avant le 3 septembre, il y a plein d'employeurs qui vont être en mesure de faire leur demande. Plein de travailleurs, plein de l'immigration temporaire qui est nécessaire ou qui est urgente va se faire avant le 3. Les demandes vont se faire avant le 3 septembre. Donc, c'est une mesure, je dirais politique, qui n'aura pas énormément d'impact sur le nombre d'immigrants, mais qui va faire en sorte que François Legault va être capable de dire à Justin Trudeau, j'ai fait ma part, on a limité, on a mis en place quelque chose pour 6 mois. Mais sachez que ça concerne exclusivement certains secteurs sur l'île de Montréal pour 6 mois. Donc, c'est quand même limité.
Ça, c'est limité, hein?
C'est quand même limité. Une stratégie politique pour donner un petit coup à Justin Trudeau.
Oui, pour dire, ben, j'ai fait ma part maintenant. Toi, qu'est-ce que tu fais?
Elle est notre chroniqueuse politique et on adore quand elle passe nous voir ici à Rage Against le matin. Jacinthe Eve Harel, merci encore une fois d'être passée nous voir.
Merci.
Toujours un plaisir. Bon retour au Québec après un bronzage du Texas aussi. Fait chaud au Texas?
Oh, oui, il faisait chaud. Je suis revenue dans la grisaille d'hier, la pluie, et je me disais... Oui. J'ai dit tout fort dans l'avion. J'ai dit, on n'est plus les plus taxons en Amérique du Nord. Pourquoi on revient ici, fait froid, on gèle, c'est déjà l'automne.
On est au mois d'août, là.
Moi, j'adore la chaleur. Je faisais pas partie des gens qui disaient qu'il faisait trop chaud.
Non, ouais.
Il faisait 100 degrés Fahrenheit, 102. Et moi, j'adorais ça. J'étais très bien.
Aïe. Passe une belle fin de semaine. On s'en parle bientôt?
Oui.
All right. Reste là. Après la pause de l'heure de 8, entre autres, on parle du Rouge et Or. Mathieu Bertrand, on parle avec lui, il va être en studio avec nous. Et on parle de lutte aussi avec Michel Plante. Bougez pas. Rage.